Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes plaisirs musicaux préférés. Il s'agit de la musique atonale. Une conception erronée qu'on a, c'est de croire que la musique atonale est un style de musique, comme la musique reggae ou la musique punk, ce qui n'est pas le cas du tout. La musique atonale peut traverser plusieurs styles de musique différents, mais c'est surtout un rapport à un système qui est le système tonal. Je vous donnerai pas le détail rigoureux parce que ça sera un peu long et laborieux, mais le système tonal est le système de base en musique classique. C'est ce qui fait, par exemple, qu'il va y avoir quand on fait une gamme, une note qui domine, on va dire la gamme de Do. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, on a sept notes, alors que ce sont des 12 tons et demi-tons qui existent. Mais à l'intérieur de ces 12-là, on va en choisir sept pour faire la gamme. Ce qui fait qu'il y a une note qui va dominer. Si vous écoutez des pièces de musique classique de l'époque du romantique ou de l'époque baroque ou de l'époque classique, souvent on va dire concerto en do majeur ou on va dire symphonie en mi mineur. Donc on va nommer une note qui va dominer. Et cette domination de la note permet quelque chose que le système atonal va défaire, et c'est la mélodie. Parce que le système tonal, en privilégiant des notes au détriment d'autres notes, va mettre sur pied des mélodies. C'est vrai en musique classique, c'est vrai aussi en musique populaire. Donc, la musique rock va mettre de l'avant des mélodies qui s'appuient sur certaines notes au détriment de d'autres. L'un des piliers pour remettre en cause la musique tonale, c'est Arnold Schönberg. Ici, c'est son livre, Le style et l'idée, que j'ai lu et que j'ai adoré. Petite note, on le pointe souvent comme le fondateur de la musique atonale, alors que lui détestait cette expression. Il va jamais définir sa musique comme étant de la musique atonale. Il va présenter son système comme étant un système à 12 notes ou 12 sons. Il va, au lieu de privilégier certaines notes, il va prendre l'ensemble de ce qui existe, donc les 12 tons et demi-tons, et là, il dit, il faut prendre chacun des 12 avant de revenir à une qui a déjà été jouée. Et c'est un système qu'il va instaurer. Une des pièces que je préfère de Schönberg, c'est le Pierrot lunaire. Ça, c'est un disque que j'ai dans ma collection depuis très longtemps. Je suis un fan fini de cette œuvre, de cette interprétation. Je l'ai écouté je ne sais plus combien de fois. Alors, la musique atonale, c'est une musique qui va arriver et qui va proposer une musique sans mélodie, ce qui est un peu surprenant pour l'oreille, ce qui fait que c'est pas une musique très populaire, parce qu'on n'a pas quelque chose auquel se raccrocher. Avant Schönberg, quelqu'un qui va non pas détruire ou défaire la mélodie, mais qui va l'étirer jusqu'à ce qu'on la perde, c'est Wagner. Wagner, dans certains moments de ses opéras, pas tout au long, mais par bribes, on en vient à presque perdre la mélodie parce que elle va s'étirer tellement longtemps qu'on est juste pris dans un espèce de son qui nous berce. Schönberg va aller beaucoup plus loin avec son système des 12 sons. Il va avoir des élèves qui vont le suivre, Anton Webern, Alban Berg, qui vont également faire de la musique. La musique à 12 sons qu'on appelle la musique dodécaphonique, donc à 12 sons. C'est une musique qui va continuer aussi avec ce qu'on va appeler la musique sérielle, Pierre Boulez, une génération plus tard, va continuer sur cette lancée-là et va proposer un autre type de musique atonale. Un autre élément qui va aider à se débarrasser de la tonalité, c'est l'enregistrement de sons aléatoires. On a ici Edgar Varèse, qui était mon introduction à la musique classique. Il va être le premier à amener dans l'orchestre des instruments qui appartiennent plus au quotidien que vraiment à la tradition musicale. On va avoir des sirènes de pompiers qui tout à coup vont partir en plein milieu d'une pièce. Avec lui, il va y avoir des gens comme Pierre Henry et Pierre Schaeffer aussi, qui vont faire ce qu'on appelle la musique concrète. Donc là, ils vont enregistrer des bruits de train, des bruits de gens qui marchent, des bruits de la nature. Et c'est avec ces sons-là qu'ils vont construire la musique. Donc on se rend compte, au début du 20e siècle, que la mélodie n'est pas un impératif pour la musique. Ça existe une musique sans mélodie. Hein, un peu comme en religion, on va dire de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il est athée. Mais en musique, quelqu'un qui est atonal, c'est qu'il se délaisse de la tonalité. Une des choses à retenir, c'est, comme je disais, la musique atonale n'est pas un genre. C'est pas non plus réservé à cette période intense de création en musique classique, parce que ça va être très associé au mouvement d'avant-garde dans les années 30, dans les années 40, dans les années 60. Puis, ça va perdre de la vitesse après. Les gens vont revenir à la tonalité et vont délaisser la musique atonale. Mais ça n'appartient pas à la musique classique. Il n'y a pas juste la musique classique qui fait de la musique atonale. La musique populaire en a aussi. Si vous prenez une musique comme le jazz, il y a différents courants dans le jazz. Si vous écoutez du swing ou si vous écoutez du bebop, ce sont des musiques tonales, donc on suit une mélodie. Mais si vous écoutez du free jazz, là on a affaire à de la musique atonale. Si vous prenez par exemple quelqu'un comme Ornette Coleman avec son album Free Jazz, eh bien là, vous allez avoir droit à du saxophone atonal. Même chose si vous écoutez Albert Ayler. Ou si vous écoutez, ça c'est mon disque de jazz préféré, Anthony Braxton. Ce sont des gens qui ne se contraignent pas à la mélodie. Et cette liberté que permet la musique atonale va avoir des résonances dans toutes les sortes de musique. Une sorte de musique où ça s'applique moins, où c'est plus difficile, c'est le rock. Parce que le rock a longtemps été fait pour faire danser et pour jouer à la radio. Donc, il devait y avoir un succès et le succès était lié à la popularité de la mélodie. Ceci dit, même dans le rock, si on va dans les raccoins sombres de l'underground et de la musique extrême, vous allez trouver de la musique rock atonale, surtout du côté du heavy metal. Dans le death metal, par exemple, Morbid Angel a fait un album de rock atonale. Même chose avec le groupe de grindcore, Carcass, c'est de la musique atonale. Un style de musique qui va avoir beaucoup de facilité à adhérer à la musique atonale, contrairement au rock, c'est la musique électronique. Parce qu'elle se prête très bien, de par sa structure, à un abandon de la mélodie. Évidemment, le courant qui est le plus fort dans l'électro, pour ce qui est de la musique atonale, qui est une musique très agressive, c'est la musique noise. Le premier album Noise, étonnamment, vient d'un artiste rock qui est Lou Reed. C'est l'album Metal Machine Music, où là, on a vraiment des espèces de boucles enregistrées, de feedback de guitare. Et là, ce son-là, strident, vient créer une espèce de bruit blanc. Et la musique noise et la musique ambiante va épouser la musique atonale. Moi, mon groupe métal préféré, qui est un groupe de musique atonale, c'est Sun. Donc, chercher une mélodie dans Sun, c'est un peu inutile. C'est un groupe qui va faire durer des accords sur plusieurs minutes juste pour travailler la distorsion et le son. Un autre pionnier dans le noise, c'est Merzbow, qui est un musicien électronique japonais. Au Québec, on a aussi nos pionniers du noise. Je prends le temps de souligner Éric Dorion, que j'apprécie beaucoup. J'ai quelques-uns de ses disques. Il a participé à un projet qui s'appelle Morceaux de machine. Donc, encore là, on sort de la musique tonale. Donc, la musique atonale, c'est pas tant une haine de la mélodie ou de la musique établie qu'une possibilité de faire autrement. Il y a un terrain qui existe hors de ce qui était prévu. Et c'est la raison pour laquelle je me suis passionné beaucoup pour la musique atonale, c'est parce qu'elle ouvrait une porte sur les plus grandes surprises. Et je trouve que ce soit en musique ou en art, en littérature, la surprise est toujours un élément agréable.